vous invite donc à ouvrir votre Bible dans Colossiens chapitre 3. On va poursuivre notre petite mini-série dans Colossiens chapitre 3. On va lire les premiers versets encore de Colossiens 3. Puisque Charity ne veut pas le réciter pour nous. On va lire les versets 1 jusqu'au verset 10. Juste 1 à 10. Si donc, on peut le lire ensemble peut-être. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impudicité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et c'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. Voilà. Donc on avait considéré un certain nombre de choses concernant ce texte, et notamment on avait considéré plutôt, on essaie de voir un petit peu, s'arrêter un petit peu, on avait dit on fait un petit, au lieu de faire un survol, d'accord, quelque chose que l'on observe depuis un avion, on voit un grand paysage tout entier, on va descendre, s'arrêter, et puis marcher pour voir un peu ce texte un peu dans les détails. Observer les petites, au lieu de voir des forêts d'arbres, on veut voir les petites fleurs qu'il y a à droite et à gauche. C'est quelques petites choses dans ce texte. Alors premièrement, on avait vu que dans ce passage, Paul encourage les chrétiens qui sont unis à Christ, parce qu'il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, après il dit vous êtes mort avec Christ, donc il parle des chrétiens qui sont identifiés à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Il dit, si tel est le cas, eh bien notre aspiration doit être de chercher les choses qui sont en haut, et non celles qui sont en bas sur la terre. Et donc il dit, et pour faire cela, il y a un certain nombre de choses à accomplir dans notre vie de tous les jours. Il dit que si vous êtes mort avec Christ, spirituellement, alors il faut mourir au péché, parce qu'on est mort au péché. Et il donne une double liste. On avait dit que c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais c'est une liste qui est représentative de deux domaines dans lesquels on a des efforts à faire pour combattre le péché. Et il y a une première liste donc, qui va du verset 5, le verset 5, et puis une seconde liste qu'on va entamer aujourd'hui, qui est au verset 8. Mais maintenant, donc verset 5, « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. » Alors, on ne les a pas vus forcément tous en détail, mais on a vu la passion, on a vu la cupidité, on a vu aussi l'impudicité. Et puis, deuxième liste, verset 8, il dit « Maintenant, renoncez aussi à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre de votre bouche. Alors, la première liste, on avait dit que ça évoque des péchés du domaine, vous vous rappelez, un peu personnel. L'impureté, la débauche, les passions, la cupidité. C'est quelque chose qui a trait au domaine personnel. Soit tout seul, un peu. Hein. Et si on regarde la seconde liste, verset 8, « Maintenant, renoncez à la colère, l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. » Tout cela, ça a trait à quel domaine, on pourrait dire ? Interpersonnel. Hein. Personnel, interpersonnel, on pourrait dire relationnel aussi. Hein. Mais interpersonnel, c'est très bien. Hein. Et donc, il y a ces deux listes-là, qui ne sont pas des listes exhaustives, mais qui sont quand même représentatives de choses contre lesquelles nous avons à lutter. Donc, si nous considérons aujourd'hui le verset 8, la première chose à laquelle il est demandé de renoncer, c'est quoi ici ? La colère. Hein. Renoncer, mais maintenant, renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, aux calomnies, aux paroles équivoques ou déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Alors, c'est ce qu'on va considérer ce soir. Renoncer à la colère. Alors, renoncer, c'est quoi ? Ça veut dire rejeter. Hein. Ça veut dire se dépouiller. C'est le terme qui est utilisé en Actes 7:58. Vous vous rappelez, lorsque Étienne a été lapidé et qu'il est dit que les gens se sont dépouillés de leurs vêtements qu'ils ont mis au pied de Saul hein, pour pouvoir lapider Étienne. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est le même mot, c'est se dépouiller. C'est enlever quelque chose que l'on va mettre de côté. Et Paul dit ici, renoncer, rejeter, déposer, si vous voulez, les vêtements de la colère. Donc, c'est ce qu'il demande de faire ici. Alors, est-ce que vous êtes colérique ? Il y en a qui ont dit oui, là qui dit non. Hein. Parfois, on est un peu. Alors, c'est quoi la colère ? Premièrement, on va considérer premièrement de quoi est-ce qu'on parle ici ? Alors, j'ai regardé très rapidement juste le mot colère dans notre Bible Louis II. Dans l'Ancien Testament, le mot colère, hein, pas tous les mots qui ont trait à la colère. Hein, par exemple, le mot irritation, c'est un mot qui a trait à la colère. Indignation aussi. Mais si je prends le mot colère, lui tout seul, hein, comme ça, traduit colère, il apparaît. Est-ce que vous avez une idée de combien de fois ça apparaît dans l'Ancien Testament ? C'est difficile ça, une question difficile. Hein. Plus de 10 fois ? Plus. Alors, j'ai noté que le mot colère, hein, 315 fois. C'est beaucoup, hein? Alors, bien sûr, il y a différentes colères, mais 315 fois le mot apparaît. Et dans le Nouveau Testament, juste colère aussi, c'est à peu près 48 fois. Hein. Donc, j'ai juste fait ça avec ma concordance, hein, vous pouvez faire aussi, et vous voyez. Mais il y a d'autres mots qu'on pourrait remplacer, irritation, fureur et tout ça. Si on ajoute tout cela, c'est encore beaucoup plus, hein? Donc, c'est quelque chose qui est présent dans l'Écriture. Le mot qui est ici, traduit par colère, il signifie bon, indignation, peut-être parfois aussi punition, hein, peut signifier punition, quand on parle de la colère qui vient, etc. Il parle d'une disposition naturelle, d'une humeur, d'un caractère qu'on peut avoir. Dans le dictionnaire biblique dit, c'est un mouvement d'agitation de l'âme, une impulsion, un désir ou une émotion violente parfois, hein, qu'on peut traduire par colère. Et voilà, donc c'est quelque chose que l'on connaît bien, je pense, hein. Même si on ne sait pas forcément toujours l'expliquer, mais on sait l'expérimenter, on sait le vivre. Alors, est-ce que la colère est un péché ? Est-ce que la colère est un péché ? Question difficile. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. La colère égoïste, c'est un péché. Donc, tu fais déjà, une classification hein, dans la Colère, oui, c'est vrai qu'on parle parfois de colère égoïste, un peu. Alors, comment est-ce qu'on sait que ce n'est pas un péché, en fait, dans le fond? Ce n'est pas un péché. Intrinsèquement, la colère intrinsèquement, hein, en elle-même, ce n'est pas un péché. D'accord? Puisque c'est une espèce, on a dit ici, c'est une espèce de vive émotion, d'accord? Un état d'émotion forte dans lequel on se trouve suite à une situation. Okay. Mais qu'est-ce qui nous montre, un peu, peut-être de manière plus sûre, que en soi, la colère juste en soi, hein, n'est pas un péché en tant que tel. Mais la Bible dit que Dieu se met en colère, parle de la colère de Dieu, parle de la colère de l'agneau dans l'Apocalypse. On sait que Jésus s'est mis en colère et a chassé les vendeurs du temple, il a renversé les tables. Hein. Donc, on a des exemples. Est-ce que vous avez des exemples de colère dans la Bible seulement? Moïse s'est mis en colère, qu'est-ce qu'il a fait? On va voir après. Voilà. Caïn s'est mis en colère contre son frère Abel. D'accord, oui, c'est ça. Caïn, est-ce qu'il y a d'autres? Jonas, il s'est irrité. Hein? Et Dieu lui demande, fais-tu bien de t'irriter? Oui, il voulait s'irriter. Oui, je fais bien de m'irriter. D'accord? Donc, on a dit Jésus. Là, on a lu dans le passage que la colère de Dieu, dans verset 7 de notre passage, hein, il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Mais on voit des passages où il dit, la colère de Dieu s'enflamma. Hein. Si, la colère de Dieu s'enflamma. Hein, si. Et la colère de Dieu se révèle contre toute impiété des hommes. Oui, voilà, exactement dans Romains, on trouve ça aussi. D'accord? Et voilà, hein, il y a beaucoup d'hommes, et certainement de femmes aussi, hein, qui se sont mis en colère dans la Bible. Alors, comment comprendre donc l'exhortation de Paul ici, parce qu'il dit renoncer à la colère. Alors on dit que la colère c'est pas forcément une chose mauvaise en soi. On va pas faire de la psychologie là-dessus, mais bon. Et en même temps, on trouve dans la Bible qu'il faut renoncer à la colère, au même titre qu'il faut renoncer à l'animosité, à la méchanceté. Est-ce que la méchanceté est une bonne chose? Est-ce que la méchanceté est un péché? Oui, le méchant, c'est celui qui ne croit pas en Dieu est considéré comme le méchant. Hein. Le méchant, c'est un terme qui désigne celui qui est loin de Dieu. Oui, les paroles équivoques, est-ce que c'est un péché? Oui. Et la colère est mise au même titre que ça. Donc, et quand Paul dit renoncer à la colère, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Si d'une part, il nous demande de renoncer, et d'autre part, on dit que, mais il y a des gens dans la Bible qui se sont mis en colère, et que Dieu lui-même se met en colère. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, pour Dieu, ça n'est pas un péché, évidemment, Dieu ne pèche jamais, mais pour nous, la colère est toujours un péché. Se mettre en colère, c'est toujours un péché. Non, pas toujours. Hein, pas toujours. Pour bien comprendre, donc deuxièmement, donc on a essayé de voir un petit peu la colère, premièrement, hein, de quoi on parle, mais deuxièmement, comment comprendre l'exhortation renoncer à la colère? Ça, c'est le deuxième point deuxième question qu'on se pose. Regardons le passage parallèle à notre passage. Vous voyez, quand vous lisez la partie pratique de Colossiens, si vous lisez Éphésiens, c'est à chaque fois presque mot pour mot la même chose que Paul développe. Hein. Donc, si vous regardez le passage dans Éphésiens chapitre 4, regardez Éphésiens chapitre 4. Quelqu'un veut lire Éphésiens 4, verset 26 à haute et intelligible voix. Éphésiens 4, verset 26. Celui qui trouve, il peut lire. Très bien. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre Soleil ne se couche pas sous votre colère et ne donnez pas accès au diable. Quelqu'un a une version Darby ici? Oui, lisez. Quelqu'un peut lire la version Darby? Quelqu'un là? Qu'est-ce qu'il dit? Éphésiens 4, 26. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé, je n'ai pas vérifié, mais il dit quoi, tu l'as? Vas-y. Voilà, c'est intéressant là ici, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Hein. Alors, est-ce que Paul ici dans Colossiens donne l'ordre de ne pas se mettre en colère et puis après il donne l'ordre, donc c'est une version qui est beaucoup plus littérale, hein, de se mettre en colère? Hein, non, certainement pas. Hein. Paul ne commande pas de se mettre en colère, hein. Mais c'est pareil que si vous vous mettez, hein, ok, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Hein. Ça veut dire, s'il y a lieu de se mettre en colère, attention hein, à la manière avec laquelle vous le faites. Donc, on va essayer de voir ça de plus près quand même, avec ces deux versets, Éphésiens 4, 26 et puis Colossiens chapitre 3, verset 8. Une première chose qu'on peut noter ici, Paul dit, si vous vous mettez en colère, je lis Éphésiens 4, 26, ne péchez point. Donc, on pourrait dire que ce qu'il vise dans Colossiens chapitre 3, verset 8, c'est que la colère ne doit pas vous conduire à pécher. D'accord? Ce n'est pas tant la colère qui est le problème que ce que vous allez faire. Et donc, c'est comme s'il dit, et c'est mon point ici, il dit que la colère est une émotion qui motive une action. Attention que cette action ne soit pas une action de péché. La colère est une émotion vive qui se traduit, qui motive toujours une action. Et il faut faire attention que cette action ne soit pas un péché. D'accord? Donc d'après ce verset, on voit que la colère peut conduire ou non au péché. On peut se mettre en colère et être conduit dans une bonne action, exemple, qui? Jésus. Et on peut se mettre en colère et être conduit dans une mauvaise action. Alors, mon travail, mon exercice pour vous, c'est de trouver, on va essayer de trouver des exemples dans la Bible, hein, de personnes qui se sont mises en colère et puis quelle action ça a engendré. La colère, ce n'est pas juste un état dans lequel je me trouve. Il n'y a personne qui dit je suis en colère et puis fait rien. En général, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Même dans la Bible, on voit que la personne s'est mise en colère et puis il y a eu quelque chose qui s'est produit derrière. Donc la colère est comme l'émotion qui a motivé l'action. Hein. Donc, est-ce que vous avez des idées, des pensées, des personnages? En colère? Le meurtre de son frère. Okay, on voit là ici que la colère a engendré le meurtre. Hein. D'ailleurs, Jésus dit dans les Béatitudes, hein, pas les Béatitudes, dans le Sermon sur la montagne, hein, il dit que celui qui se met en colère contre son frère, c'est un meurtrier. Hein. D'accord? Et donc, on voit ici une action. Ensuite, est-ce que vous en avez d'autres? Oui, il voulait le tuer. Hein. Il était en colère, il voulait le tuer. Un exemple, Moïse dans Exode 32, par exemple, lorsque Dieu lui donne les tables, vous vous rappelez, les tables de la loi, et puis Dieu lui dit, descends parce que ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, Dieu dit à Moïse, ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, voilà, il s'est détourné. Et Moïse descend et puis il entend les chants, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend les tables. Et il les jette par terre. C'est comme s'il avait pris la Bible. J'essaie d'imaginer cette scène. Hein. Et puis, son cœur est indigné à l'idée de ce qui se fait. Et il la jette. Hein. Si nous voyons quelqu'un jeter une Bible, déjà, quand on voit quelqu'un poser une Bible sur l'estrade, il y en a qui sont outrés. Hein? Oh, on ne devrait pas poser la Bible, etc. D'accord? Et Moïse, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il jette. J'essaie de me dire quel reproche Dieu lui a fait. Aucun. Dieu lui a dit, après, tiens, tu remontes et je vais te redonner les tables que tu as brisées. Hein, je lis ça ce matin, il disait, je vais te redonner les tables que tu as brisées. Est-ce qu'il a fait quelque chose qui était mauvais, là, ici? Est-ce que sa colère l'a poussé à faire quelque chose qui était mauvais? Il ne semble pas. D'accord? Il s'est mis en colère, il était irrité à ça, et puis il a eu un geste. Donc, parfois, on peut avoir un geste qui peut nous sembler comme ça quand on regarde extérieurement. Pas bon, mais aux yeux de Dieu, n'est pas une mauvaise chose. Hein. Et puis on peut avoir un geste qui est aussi un mauvais geste. Hérode, par exemple, s'est mis en colère. La Bible dit dans Matthieu 2, chapitre 16, Hérode était en colère parce que les mages ne sont pas revenus le voir pour lui dire où était l'enfant Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait massacrer tous les enfants à partir de 2 ans et en dessous. Et on voit où l'a amené sa colère. La Bible dit que le frère du fils prodigue, il était en colère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas entré dans la maison parce qu'il était en colère contre le fait que le père reçoive l'autre frère prodigue. Hein. Et tout à l'heure, Jean-Pierre a cité aussi l'exemple de Jonas qui était en colère. Pourquoi Jonas était en colère? Voilà, parce que Dieu voulait sauver un peuple et lui ne voulait pas que Dieu fasse miséricorde à ce peuple. Alors comment s'est traduit cette colère? En demandant la mort, il a dit « tue-moi ». Vous voyez, c'est un peu... Et tout ça, c'est ce qu'on peut faire sous l'émotion de la colère. Parfois, on peut faire des choses qui sont bonnes, on peut faire des choses qui sont des péchés. Et c'est pour ça que Paul dit dans Éphésiens, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne péchez point. Donc ça, c'est un point qui est très important ici. Et c'est une citation, en fait, du psaume 4, verset 5, qui dit ceci, qui dit « Tremblez et ne péchez point ». Et le mot qui est traduit « trembler » ici est traduit « irrité » parfois à d'autres endroits. Donc il dit « tremblez et ne péchez point ». Paul, l'apôtre Paul prend ça et puis il dit « si vous péchez, oh c'est pas vrai, si vous vous mettez en colère, ne péchez point ». Donc ce que Paul dit, il ne dit pas de ne jamais se mettre en colère quand il dit « renoncer à la colère ». Il dit « apprenez à bien gérer et à bien contrôler votre colère pour que vous ne vous emportiez pas au point de commettre un péché. » Alors, il peut y avoir des situations qui nous poussent à l'indignation. Si on voit quelqu'un faire du tort à un enfant, ça nous prend et ça nous met dans une indignation profonde, une colère. Et c'est ce qu'on fait avec cette indignation, cette émotion qui est importante. C'est ça que Paul souligne ici. Proverbe 30, verset 3 dit « La pression du lait produit la crème, la pression du nez produit le sang et la pression de la colère produit des querelles. » Bien souvent, si on laisse les choses aller. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Alors parfois, on a des relations les uns avec les autres. Et c'est vrai qu'il y a des situations parfois qui suscitent l'indignation. Et ce n'est pas mal d'être indigné, et même d'être en colère. Mais la colère ne doit pas générer chez nous une action pécheresse. Si vous êtes en colère, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Il ne dit pas, mettez-vous en colère. Il n'y a aucun commandement qui nous demande de nous mettre en colère. On va le voir après. Donc ça, c'est le premier point. La colère est une émotion qui motive une action. Alors, veillez à ne pas pécher. Deuxième chose qu'on peut souligner ici pour comprendre l'exhortation, c'est que la frontière entre la colère et le péché est ténue, très petite, très fine, très étroite. Alors, ne vous mettez pas en colère pour une mauvaise raison. On pourrait dire ça comme ça. Hein. Il y a une frontière très étroite entre la colère et le péché. Hein. Parce que l'apôtre Paul dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. C'est que C'est très facile de basculer de l'émotion à l'action de péché. Alors, il dit « faites attention », c'est comme s'il dit « faites attention ». Notre problème est le suivant, c'est qu'on se met facilement en colère, n'est-ce pas ? Il y a des gens qui disent « moi je suis comme ça, hein, je démarre au quart de tour hein. ». Des fois c'est même pas au quart de tour, c'est avant que ça commence, ils ont déjà démarré. Hein. D'accord ? Je démarre au quart de tour, hein. C'est comme ça que je suis de naturel sanguin. Il y a des gens qui disent ça, je suis de naturel sanguin. Hein. Chez nous on est des sanguins. Hein, donc notre famille, ça déménage. Et c'est vrai qu'on se met en colère facilement. Et on s'emporte vite si le feu tricolore devient rouge juste au moment où on arrive. Hein, on n'est pas content. Si celui qui roule devant nous, il roule trop lentement, hein, on est prêt à appuyer sur le klaxon. Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas possible, hein ? Et pourquoi ? Parce qu'on voudrait que tout marche comme on a décidé que ça doit marcher. On est le centre et tout doit tourner autour de nous. Et si on se met en colère pour ça, on est dans une mauvaise colère. Quelqu'un disait, on est en colère ni au bon moment, ni pour la bonne raison. Et ce que Paul dit ici, quand il dit renoncer à la colère, quand il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, il est en train de dire, attention, il ne faut pas vous mettre en colère pour n'importe quelle raison et n'importe quand. Sinon, vous risquez de péché. C'est péché que se mettre en colère quand il ne faut pas se mettre en colère. Ou de s'emporter quand il ne faut pas s'emporter. Quelqu'un disait que la mauvaise colère consiste à dire que ma volonté soit faite, que mon règne vienne. Hein, un peu comme ça. On est au centre et on voit que tout tourne autour de nous. Quand on arrive au rond-point, il faut que tout le monde, au feu, il faut que tout le monde sorte parce que je suis là. Hein, il faut qu'on se dégage, je suis sur l'autoroute, ça ne va pas assez vite, il faut qu'on se dégage parce que j'arrive. Et on est un peu comme cela. Parfois dans l'église, on est aussi comme cela. Hein. On se met en colère parce que notre idée, elle n'est pas suivie. Hein. J'ai proposé ça, j'ai dit si, ça fait longtemps que j'ai dit ceci ou cela. Personne n'écoute et on est en colère. On est en colère. C'est une mauvaise raison de se mettre en colère. Donc, renoncer à la colère ne consiste pas à se mettre en colère au mauvais moment, ni pour la mauvaise raison. Et c'est pour ça que l'apôtre Jacques dit, en reprenant des passages du Proverbe, que le Proverbe le dit beaucoup, si vous avez le temps, faites une étude de la colère avec le livre des Proverbes, vous allez voir, il y a beaucoup de versets qui parlent de la colère et de l'irritation dans le livre des Proverbes. Jacques 1,19 dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, et lent à se mettre en colère. Alors, il y a plusieurs versets dans les Proverbes, je vous dis, qui soutiennent cette pensée de la lenteur à la colère. Donc, s'il y a lenteur, ça veut dire que ce n'est pas qu'on ne doit pas se mettre, mais on doit être le plus lent possible à se mettre en colère. Alors, on peut lire Proverbe 12-16. Tiens, Dylan, tu veux nous lire Proverbe 12-16, s'il te plaît, hein? Et puis, quelqu'un d'autre peut choisir Proverbe 14-25. Tiens, Sharon, Proverbe 14-25. Proverbe 16-32, Ebi, si tu veux bien. Proverbe 16-32. Et puis, Proverbe 19, verset 11, Ludovic. Hein. Donc, je reprends Proverbe 12-16, Proverbe 14-25, Proverbe 16-32 et Proverbe 19, verset 11. 12-16. Vas-y, Dylan. Voilà. L'essentiel, il fait quoi ? Il laisse voir quand ? Ce qui est important, il dit, quand c'est qu'il laisse voir sa colère ? À l'instant. C'est-à-dire, le truc se passe et puis tout de suite, il est déjà en colère. Tandis que l'homme sage, il dit, fait quoi ? Voilà. Celui qui cache un outrage est un homme prudent. C'est-à-dire, il va pas aller le dispatcher partout, il ne va pas se mettre en colère avec, parce que souvent quand on est en colère, on veut que les autres sachent que l'on est en colère. Hein. On se met en colère et puis on dit, voilà, tu vois, c'est ce qu'il a fait, lui il a fait ci, lui il a fait ça, etc. Et il dit, celui qui est sage, il va cacher l'outrage, il ne va même pas en parler, il va prendre son temps avant de se mettre en colère. Pour le prochain passage, Proverbe 14, 25. La première partie, c'est quoi?
Le témoin
véridique. C'est 14, 25, ça?
14,
je me suis trompé, peut-être. Hein. 14, 17, qu'est-ce que ça dit? Vas-y.
Celui qui est prompt à la colère fait des sottises.
Voilà, c'est ça. Hein. Donc, celui qui est prompt à la colère, voilà. On voit encore ici, hein, donc il souligne le défaut que c'est d'être rapide à se mettre en colère. Proverbe 16, 32. Voilà, hein, donc parfois on peut trouver que c'est valeureux de faire des choses, etc., de grandes choses, mais il dit, voilà quelque chose qui est encore plus important que ça, qu'être un héros, c'est d'être lent à se mettre en colère. Et dernier passage, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, je n'ai choisi que 4, mais 19, 11, Ludovic. Voilà, l'homme qui est lent à la colère, redis-nous ça encore. L'homme qui a la sagesse, c'est là, ouais. Voilà, oublier les offenses. Hein? On fait le contraire, n'est-ce pas, hein? On n'oublie pas les offenses. On dit ça, c'est inscrit. Il y a une expression qu'on utilise, hein, pour dire qu'on va se souvenir, liste des préjudices qu'on ne va jamais oublier. D'accord? Mais on voit que celui qui... Être lent à la colère, c'est couvrir les offenses. Hein? Donc ça, c'est une chose, hein, qu'on a vu. Puis un dernier que je vais voir encore, parce qu'on n'a pas le temps de tout voir ici. Donc on a dit que la frontière entre la colère et le péché, elle est tellement, tellement petite qu'il ne faut pas se mettre en colère pour n'importe quelle raison. Donc il faut être lent à se mettre en colère. Et la Bible dit que Dieu, il est comment? Comment Dieu se présente à Moïse? Quand Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire ». Et Dieu lui dit... Il se fait... c'est dans Exode, hein? Est-ce que vous vous rappelez comment Dieu se fait connaître? Exode 34, verset 6. Éternel passe devant Moïse et puis il s'écrie Éternel, Éternel, Dieu, comment? Miséricordieux et compatissant. Et ensuite, il dit quoi? Lent à la colère. Dieu est lent à la colère. Et il veut que ses enfants soient aussi lents à la colère. Alors, troisième point pour cette compréhension de l'exhortation de Paul, on a vu premièrement que voilà, la colère est une émotion qui motive à une action, donc il faut veiller à ne pas pécher quand on est en colère, que la frontière entre la colère et le péché est très étroite, donc il faut se mettre en colère le plus loin possible, le moins, comment je vais dire ça, le moins rapidement possible. Et puis, je reprends encore, la frontière entre la colère et le péché est tellement étroite qu'il faut éteindre la colère le plus vite possible quand elle s'est allumée. Si jamais on s'est mis en colère, il faut l'éteindre le plus vite possible. Regardez ce que Paul dit encore, verset de Éphésiens. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Sur votre colère. Faut pas. Attends, tu avais dit d'abord, faut pas aller se coucher en colère. Tu disais. Faut pas garder sa colère. Faut pas que ça se prolonge. Alors, est-ce que ça veut dire que. Paul dit, vous pouvez rester en colère jusqu'au coucher du soleil, mais pas plus. Est-ce que ça veut dire ça? Ou est-ce que ça veut dire que vous avez la journée, ok, peut-être pour passer votre colère, mais passer le temps où il faut se coucher, il faut arrêter. Quand le soleil se couche, il faut arrêter. Bon, c'est un langage un peu métaphorique. Hein? On comprend bien que ce que Paul vise, ce n'est pas le coucher du soleil. Parce que imaginez que vous habitiez en Norvège du Nord. J'ai lu qu'en Norvège du Nord, je ne sais pas si je vais retrouver ça dans mes notes, là, mais j'ai vu qu'en Norvège du Nord, eh bien, le soleil ne se couche pas. Hein, il y a une période de mi-mai à juillet où c'est quasi 24 heures sur 24 du soleil, il ne se couche pas. Alors, si vous êtes mis en colère le premier jour où ça commence, vous pouvez dire, si vous interprétez ça littéralement, j'ai quand même 2 bons mois avant d'éteindre ma colère. Hein? Et donc, voilà. Et là, il va. Hein? Heureusement que j'habite en Norvège. Hein? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Hein? On comprend bien que ce que Paul dit, c'est que je dois être prompt à mettre fin à la colère. D'accord? C'est une manière de dire, voilà, le temps ne doit pas passer et je ne dois pas demeurer en colère. Permettre à la colère de s'étendre dans le temps ou bien l'entretenir, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Même une juste colère. Si je me suis mis en colère pour une bonne raison, au bon moment, même une telle colère, il faut l'éteindre. Parce que si je la laisse, je la maintiens, je l'entretiens, ça me ronge. Hein? Vous vous rappelez, c'est Absalom, hein, le fils de David, lorsque Amnon avait violenté sa sœur Tamar, et il a dit à sa sœur, ma sœur, calme-toi, pas de bruit, n'ébruite pas ça, c'est ton frère, ok, tu gardes ça. Il a dit ça à sa sœur, mais lui, il a gardé pendant 2 ans ce truc dans son cœur. Il a tourné, il y avait une colère qui est là, qui a germé, qui a grandi dans son cœur, jusqu'au point où, quand l'occasion, il a organisé l'occasion pour tuer Amnon. Vous voyez, ici. Alors, est-ce que c'était une chose qui se met en colère à cause de cette situation? Probablement, oui. Ce qui était mauvais, c'est il a macéré ça dans son cœur, il a gardé, il n'a pas cherché à éteindre cette colère-là, ici. Donc il s'agit, dans l'exhortation que Paul nous donne quand il dit « renoncer à la colère », il s'agit de ne pas laisser durer la colère sous peine de la voir se transformer en péché. Romains 12, 17, 19 montre que la colère peut virer à la vengeance personnelle. Hein. Il dit « ne rendez pas le mal pour le mal ». D'accord ? Et puis il dit « car Dieu dit à moi la vengeance ». D'accord ? À moi la rétribution. Thomas, il est en train de dire, attention, ne pensez pas comment vous allez vous venger. Quand vous êtes en colère, ne cherchez pas à vous venger. Cherchez à éteindre, d'accord, le plus vite possible. Il dit, surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Donc, il faut donc s'en débarrasser le plus vite possible. Voilà, il est 20h11, je vais m'arrêter parce que... il y a encore 2 ou 3 choses qu'on va voir là-dessus, quand même. Mais peut-être juste, comment est-ce qu'on peut désamorcer, 1 ou 2 points, comment est-ce qu'on peut désamorcer la colère? On va revenir là-dessus la prochaine fois, mais il y a peut-être est-ce que vous avez 2 ou 3 passages bibliques qui nous montrent ce que nous devons faire avec la colère, comment nous devons la gérer? Là, on a vu ce que Paul dit concernant la colère, quand il dit de renoncer à la colère, mais pratiquement, comment est-ce qu'on pourrait faire pour renoncer à la colère? Parler à Dieu, oui. On peut lire ça, c'est une très très bonne chose que tu partages là ici. Hein, je crois que c'est dans Psaume 37, on peut regarder Psaume 37, peut-être on va prendre que celui-ci en premier, on n'aura pas le temps de voir les autres. Hein, Psaume 37, à partir du verset... Psaume 37, alors je crois que c'est le verset 5, Psaume 37, verset 5, il dit « Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. » Donc c'est ça, hein? Comment tu as dit ça? Tu as dit... Voilà, on parle au Seigneur, on se confie en lui, d'accord, on se confie en lui, recommande ton sort à l'Éternel, verset 6, il fera paraître ta justice, vous voyez, c'est, j'ai subi une injustice, d'accord, qui me fait expérimenter l'émotion vive de la colère, il dit ce que je dois faire, je dois me recommander au Seigneur, je dois lui faire confiance, je dois lui parler, je dois me décharger sur lui, et ton droit comme le soleil à midi. Et puis verset 7, il dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Et le verset qui a lieu à la colère ici, « Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. » Peut-être c'est quelque chose, il triche, il réussit en trichant, etc. Ça suscite de la colère au point où toi, ton droit t'est enlevé. Il y a des attitudes injustes à ton égard. Il dit « Tu te confies dans le Seigneur et ne t'irrite pas. » Ne laisse pas la colère te surmonter. Il dit ici, verset 8, laisse la colère. Hein? Ça veut dire, elle est là, mais tu l'étouffes. Hein? Tu la fais taire en te confiant dans le Seigneur. Donc, une manière de renoncer à la colère, c'est de se tourner vers Dieu dans les situations difficiles et de lui faire confiance, de prier, de lui dire, Seigneur, tu vois la situation dans laquelle je suis, tu vois cette injustice. Ça me met en colère. Mais aide-moi, tu vois, libère-moi de cette irritation, de cette colère. Donc l'émotion n'est pas un péché, mais ce que l'on va faire avec peut être un péché si on ne fait pas attention. Il y a une bonne manière de renoncer, c'est de faire confiance au Seigneur et d'espérer en lui. Plusieurs fois dans ce passage, il est dit « espère en l'Éternel ». Espère en l'Éternel. Voilà, on s'arrête là. On va prendre quelques